J'aimerais partager avec vous ce matin cette réalité de l'Église qui est un lieu de relation et de transformation. Alors vous allez me dire, oui, ça vaut pour les chrétiens, mais ça vaut bien plus que cela, dans le sens de la vie en général, elle est faite pour être partagée. Lorsque Dieu a créé toute chose, c'est qu'il l'a vue à ses yeux comme bonne, c'était pour qu'il y ait du partage, c'était pour qu'il y ait une harmonie entre la créature et sa création. Et après, lorsqu'il a vu que le premier homme se sentait seul, et qu'effectivement cette communion, alors c'était de manière consciente et inconsciente, puisqu'il était parfaitement enclavé dans l'amour du Père, eh bien il s'est dit, je vais quand même créer un vis-à-vis, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il y a cette relation verticale avec Dieu, et cette relation horizontale avec les hommes. Bien évidemment, ceux qui n'ont pas la relation verticale avec Dieu, il reste quand même cette vie humaine qui se veut d'être partagée. Et nous appelons justement dans l'Église chrétienne la communion. Ou alors on pourrait le mettre un peu dans un autre terme, peut-être plus courant, le mot partage. Seulement, quand on parle de partage, il faut préciser qu'on ne parle pas forcément de simplement être présent là ce matin ou de temps en temps aller l'une ou l'autre réunion ou se dire un bonjour peut-être de culture, un bonjour culturel, un salut ça va. J'avoue, j'ai du mal à sortir de ce salut ça va, je ne sais pas des fois quoi dire. J'aimerais bien, Seigneur, si tu peux m'aider à ne pas forcément dire ça va de manière culturelle, mais prendre vraiment des nouvelles de la personne. Et dans la même mesure, lorsqu'on me dit ça va, plutôt que de dire un oui ou un bof, peut-être prendre le temps d'expliquer pourquoi je dis oui ou bof. Mais le partage, la communion, c'est cet amour désintéressé, c'est des discussions authentiques, profondes, ce sont des services rendus de manière pratique, tout simple peut-être, des encouragements mutuels, une communion fraternelle. Mais vous en conviendrez que cela est possible de manière assez intéressante en petits groupes. Alors on peut se dire, mais pourquoi le message s'adresse à l'Église? Eh bien parce que justement, nous l'avons vu, l'Église est composée de petits groupes. S'il y a plus de 10 personnes en général dans un groupe, on se rend bien vite compte que l'une ou l'autre personne qui a un tempérament plus timide va facilement se mettre à l'écart, on pourrait dire, s'effacer. Je trouve assez intéressant et peut-être ça nous donne peut-être une explication de pourquoi Jésus a choisi que 12 disciples et pas 20, 30. Il y en a eu d'autres après, mais les premiers. Parce que certainement aussi, c'était déjà bien compliqué, et on le voit dans les textes, les échanges entre les uns et les autres. Et l'Église est justement formée de petits groupes, école du dimanche, garderie, équipe de ménage, flambeau, groupe de maison, les groupes d'études bibliques, groupe alpha, les musiciens, la technique, les travaux, etc. etc. Petits, grands, ados, jeunes adultes, plus âgés, personnes du troisième âge, etc., etc. Comme le corps humain, notre corps est formé de petites cellules, et la vie de ce corps est contenue dans ces petites cellules, eh bien, l'Église aussi prend toute sa vie dans les petits groupes. Alors on pourrait un peu illustrer un peu comme l'Église comme un navire, ce grand paquebot, et on voit que les petits groupes pourraient être ces canaux de sauvetage qui l'entourent. Alors c'est assez intéressant, même si aujourd'hui la législation commence à augmenter, et je crois qu'on est passé de 150 personnes par canot de sauvetage à 250 pour les gros navires de croisière, ce qui était un exploit et ce qui n'a pas été facile de faire parce que ça demande quand même des techniques complexes. Eh bien, et ça multiplie aussi évidemment les risques, mais si vous connaissez l'histoire du Titanic, c'était à peu près 1700 personnes de possibles dans des canots de sauvetage pour 3500 passagers. Donc souvent, il n'y a pas assez de personnes qui peuvent entrer dans les canots. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde, je ne veux pas rentrer dans l'idée de tout le monde, il y en a qui ne se réveillent pas, mais la question est juste que finalement, la vie du navire, si on le remet à cette image des petits canots, tient d'une certaine manière à ces petits groupes qui sont actifs. Et on a le droit aussi de ne pas forcément faire partie d'un petit groupe. C'est pour ça qu'avant, on a prié pour des groupes, pour des activités, mais le corps du Christ va bien plus loin que ce que nous, on voit. Va bien, la vie qui est dans ce navire va bien plus loin de la capacité qu'il pourrait avoir dans ces canaux de sauvetage. Alors restez tous pour la suite de ce message. Mais je crois qu'il y a vraiment une grande différence entre les relations à partager d'un point de vue humain, dans un club, dans une association telle qu'elle, et une église. une question piège, mais vous savez bien évidemment pourquoi. Parce que dans l'Église, Jésus est au cœur de nos relations. Même si on n'a pas l'impression qu'il est là, lui est là, au cœur de nos relations. Nous le voyons, nous l'avons dit, la vraie communion fraternelle, les gens essayent de se montrer authentiques. C'est différent de discussions superficielles. On parle de la pluie, du beau temps, mais c'est ouvrir son cœur et même parfois oser pleurer. On parle franchement, sans certes, bien évidemment, entrer dans les détails de ce que je suis ou de ce que je vis. Ce qui me blesse, ce que je peux ressentir à cet instant. Je peux parler avec recul de mes échecs, de mes faiblesses, pour demander de l'aide, du soutien, de la prière. C'est là aussi totalement opposé, différent de faire semblant, de porter un masque, de se limiter à une politesse superficielle ou culturelle, de rester sur ses gardes et faire comme si tout allait bien. On est dans une église du XXIe siècle, il y a des défis et on doit, quelque part, essayer de toucher nos contemporains dans leur langage. Et la question des réseaux sociaux, elle est aussi d'actualité pour l'Église et pour nous-mêmes. On se connaît aussi, même pas d'un point de vue chrétien, mais d'un point de vue sociologique et d'un point de vue de la médecine aujourd'hui, les dégâts que font les réseaux sociaux, notamment sur les plus jeunes et sur l'isolement que cela peut créer. Mais n'empêche que c'est quand même un étalement d'une communication actuelle et nous ne pouvons pas, comme Jésus dit, nous ne sommes pas du monde, mais nous ne pouvons pas être dans le monde. Nous devons aussi être présents. Mais plus on avance là-dedans, plus je me dis, oui, l'Église doit être présente. Oui, en tant que chrétien, je dois être présent, mais où est la limite? Et vous savez, je me rends bien compte, quand je vois des super églises qui me donnent l'impression de fonctionner, en fait, ce qui me chagrine, c'est que je vois que des gens qui s'enlacent avec des grands sourires jusqu'aux oreilles. C'est que l'impression, et à chaque fois on nous dit, venez vivre une soirée extraordinaire, venez voir. Oui, on a un Dieu extraordinaire. Oui, je crois que Dieu fait des miracles, je crois que Dieu fait toutes choses puisqu'il est Dieu. Mais par contre, je me dis, mais moi, si j'ai envie finalement en tant que pasteur que mon église soit représentée, à la rigueur, si je veux être honnête, il va falloir que je mette des gens qui pleurent. Il va falloir que je mette des gens sur leur lit d'hôpital, des gens qui sont coincés chez eux parce qu'ils sont isolés et peut-être même rejetés de leur famille. Des gens qui n'ont pas de travail. Parce que c'est ça la vraie vie. Et je trouve ça dommage que finalement on ne transmet pas le vrai message. C'est bien, on peut vivre de bonnes soirées, mais il n'y a pas que les bonnes soirées. Hein. Ils étaient tous contents d'être sur la montagne et de voir la transfiguration du Christ. Mais à un moment donné, Jésus a dit non, on ne mettra pas de tente ici. Il va falloir redescendre de la montagne et aller croiser ceux et celles qui ont besoin de nous. Mais pour cela, bien évidemment, pour cela, il nous faut du courage. Alors oui, je sais que c'est pour certains d'entre vous, ce n'est pas dans vos habitudes de partager une difficulté. Oui, je sais que peut-être c'est de votre éducation, c'est peut-être votre caractère qui vous freine, vos blessures qui sont tellement profondes. J'ai envie de dire oui pour tout ça. Oui, 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 vous avez raison. Mais oui aussi pour le fait qu'il faut de l'humilité et du courage pour oser prendre un tel risque. Parce que oui, c'est un risque. Mais c'est la seule façon de grandir spirituellement et d'être sain sur le plan émotionnel. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais peut-être pour certains en aparté, mais ça se voit peut-être pas comme ça aujourd'hui, mais mon arrière-plan émotionnel est très très loin de celui d'aujourd'hui. Et on ne peut pas en vouloir à qui que ce soit, ça fait partie de mon éducation. J'étais dans une famille où je savais que j'étais aimé de mes parents. Ils ont fait vraiment leur possible dans de divers domaines. Mais on n'était pas du genre à se prendre dans les bras, à se faire des câlins ou même à se dire un « je t'aime ». Et puis quand j'ai eu le Seigneur qui est entré dans ma vie et que j'ai croisé d'autres chrétiens qui, de manière assez facile, venaient « ah mon frère, il me prenait dans les bras, il me faisait des bisous, là, des bisous », je me dis « waouh ». Enfin, j'ai ressenti vraiment quelque chose de difficile pour moi à gérer. Et je me suis dit « mais en fait, pourquoi je ressens ça ?» J'ai un peu creusé, et en même temps je me suis dit « mais… » Bon, il ne s'agit pas d'aller embrasser tout le monde maintenant, bien évidemment. Mais est-ce que cette réaction que tu as eue, finalement, elle te coinçait pas? Est-ce que tu ne peux pas être plus libre à un moment donné si tu essayes avec Dieu de passer outre? De même, la timidité, alors là, c'était une horreur. Hein, une horreur, je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être les complexes de l'adolescence qui sont restés, qui se sont aggravés. Peut-être des blessures, des fractures en tant qu'enfant, certainement. tout ça, toute cette peur qui, d'une part, m'a protégé de certains excès, mais d'autre part, qui m'a paralysé terriblement, au point où je ne faisais pas des choix réfléchis, mais plutôt des choix pour suivre les autres. Hein. Et puis, oser dire non. Alors là, oser dire non, il ne fallait pas venir chez moi si vous attendiez un non. Et même si aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile et que ça me demande beaucoup, beaucoup d'efforts et de foi dans ce que le Seigneur peut m'aider, eh bien, je dis, Seigneur, aide-moi à essayer de faire en tout cas ce qui me semble juste, à essayer de faire un choix et de l'assumer. Peut-être je me trompe, mais en tout cas, comme j'ai fait le choix délibérément, alors j'assumerai les conséquences avec telles qu'elles soient. Et oser dire non, finalement, c'est aussi, Seigneur, aide-moi à accepter que d'autres peuvent me dire non. C'est bien facile d'arriver à dire non, mais il faut aussi accepter. Et tout ça, c'est un gros chantier. Et je remercie le Seigneur pour ce cheminement, mais ça m'a coûté. Ça m'a coûté personnellement, émotionnellement, et une bonne dose de foi que je demandais au Seigneur à chaque fois qu'il y avait des situations où je devais dire, Seigneur, aide-moi, moi, je suis pas parti sans toi, je partirai pas sans toi. Tu veux que j'aille là-bas, tu veux que je fasse ci, bah, tu te débrouilles. Hein. Tu fais ta part, s'il te plaît, la mienne, c'est que j'obéisse. Et Seigneur se révèle à chaque fois. Et on se rend compte à quel point dans nos obstacles, Dieu peut agir. Sans risque, pas de changement. Être honnête avec les autres et envers soi-même, je crois que ce sont les choses les plus difficiles à faire. Même quand nous, on sait qu'on a des problèmes, c'est difficile de se l'admettre. Hein. Moi, je fais partie de ceux qui attendent toujours au dernier moment pour aller chez le médecin. Il faut vraiment que j'ai plus le choix. Alors que peut-être des fois, j'aurais peut-être dû y aller avant. Et voilà, c'est comme ça. Mais bien plus, si j'ai à cœur cela, et que d'autres ont à cœur cela, on entre dans cette réalité que la communion, la vraie communion, elle est réciproque. On devient plus affermi dans la foi lorsque d'autres marchent avec nous et nous encouragent. Plus de 50 fois dans la Bible, il est écrit qu'accomplir les tâches les uns pour les autres. Hein, on peut donner des exemples. Encouragez-vous, supportez-vous, aimez-vous, etc., etc. Plus de 50 fois. Romains 14, verset 19 nous dit « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et l'édification mutuelle. » Première remarque, si vous avez envie de dire quelque chose, si vous avez envie de réagir à quelque chose, à l'image de ce que Paul nous encourage, demandez-vous si c'est utile, d'abord à l'édification mutuelle, et si oui, réfléchissez, voire même attendez le moment opportun pour que la façon dont vous le direz soit dans le but de poursuivre la paix. Ayez compassion. Et si vous manquez de compassion, avant toute chose, demandez à Dieu de vous remplir de compassion pour cette personne. Parce que l'être humain a deux besoins fondamentaux, c'est celui d'être compris et d'avoir ses sentiments qui sont pris au sérieux. Le problème de notre société, et c'est là encore un des défis supplémentaires, c'est que nous allons très vite et nous avons envie de régler vite fait les choses. Et donc nous ne prenons pas le temps d'écouter, ne prenons pas le temps de sympathiser, de relativiser, ou surtout de prendre le temps d'aller vers Dieu déjà, et de nous rendre compte finalement que nous ne méritons rien devant Dieu. On avait fait récemment dans le groupe de maison, on fait ce thème un peu du relationnel aussi, et l'auteur qui fait ces petites vidéos disait à un moment donné, essayez d'aller voir Dieu quand vous êtes disputé avec quelqu'un, peut-être dans votre couple, dans votre famille, dans des amis. En tant que chrétien, la première chose, on s'éloigne de la source de conflit et on a envie de s'approcher de Dieu. Et encore, quoique ce n'est pas facile de vouloir s'approcher de Dieu. Pourquoi ce n'est pas facile? En tout cas, moi, c'est difficile. Parce que je sais que Dieu ne me donnera jamais raison. C'est vrai, hein? Et ça me coûte, en fait. Parce que des fois, j'ai raison dans le conflit. Ou en tout cas, je pense avoir raison. Et puis, l'autre aussi pense avoir raison. Donc, on campe sur nos deux raisons. Et j'aimerais bien quand même que l'autre comprenne que finalement elle a raison, mais qu'elle n'a pas tout à fait raison, que j'avais un peu plus raison quand même dans ce domaine-là. Et en fait, le Seigneur, finalement, je sais qu'au fond, quand je vais aller vers lui, il ne va pas me dire « mais c'est elle qui a raison ou qui n'a pas raison au final. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour toi? Est-ce que j'ai attendu que tu aies raison ou que j'ai raison pour le faire? Non. Repens-toi de cette situation devant moi. Tu m'attristes, etc. Cette situation m'attriste parce que je vous aime et va te réconcilier avec l'autre. » Finalement, sans reprendre la discussion, c'est dur. Hein. Voilà, c'est cette réalité-là. Dieu ne me donne pas raison. Et des fois, je me dis, mais punaise, c'est toujours moi qui fais le premier pas, quoi. C'est ça, en fait, aussi. Je sais que Seigneur va me dire, fais le premier pas, parce que c'est ça la relation du disciple que je veux avec toi. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu, parce qu'il nous arrive à nous tous de tomber et d'avoir besoin d'aide pour nous relever. Et de même, justement, dans cette communication que nous pouvons avoir avec Dieu, cette communion profonde que nous cherchons à avoir avec lui, quand je vous dis qu'effectivement, il ne nous donnera jamais raison, eh bien, on se sait pardonner par sa grâce. Et plus on se sait pardonner par sa grâce, plus on va arriver à pardonner aux autres. Le souci, je pense, principal, c'est que souvent, on fait l'amalgame entre le pardon et la confiance. Je crois qu'il y a un petit peu... Ça peut se ressembler, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Le pardon, c'est tirer un trait sur le passé. Et la confiance, on pourrait le dire, ça concerne ce qui va venir. C'est ce qui va arriver après. La Bible nous demande de pardonner. C'est un ordre, hein, c'est un commandement de Dieu. Non pas pour justifier la blessure ou l'offense que l'autre nous a fait, mais pour donner le procès à Dieu. C'est Dieu le juge, c'est pas moi le juge. Et Dieu a dit qu'il jugera tous selon leurs œuvres. Dieu, tu es le juge, je ne veux pas prendre ta place. Cette situation me fait souffrir et tu le sais, je te la donne, tu te débrouilles avec, je ne veux plus entendre parler. Par contre, si vous obéissez à ça, au-delà de l'émotion, ça reste un choix, au-delà de l'envie, bien évidemment, la confiance, elle, avec l'autre qui a été pardonné, va se construire dans le temps, ou pas. Quelqu'un vous blesse encore à plusieurs reprises ? Dieu désire que vous lui pardonniez, mais vous n'êtes pas obligé de lui accorder de nouveau votre confiance, ni de lui laisser la possibilité de vous blesser à nouveau. Pour qu'une relation humaine puisse à nouveau se former, chacun doit prouver qu'il a envie de changer, qu'il veut déposer les armes. Être changé, justement, être transformé, c'est là que nous venons à ce deuxième point, que l'Église est ce lieu de transformation. Et justement, pourquoi ? Parce que Jésus est au cœur de nos transformations. Qu'on le veuille ou non, c'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui amènera la foi à sa complète finalité. Seul le Saint-Esprit peut nous permettre et faire une véritable relation authentique. Mais il le fera que si c'est notre choix et notre engagement. La puissance de Dieu d'une part et nos efforts d'autre part. Donc il faut du courage, il faut une bonne dose du Saint-Esprit pour dire la vérité avec amour. Beaucoup de gens, je crois, n'ont personne qui les aime assez pour leur dire la vérité. On le sait, mais on reste dans notre coin parce qu'on a peur des conflits. On ne veut pas faire de vagues, on minimise une situation et finalement on se tait. Le problème semble être enterré. Mais malheureusement, bien souvent, ce sont les rumeurs qui prennent place et circulent et l'ambiance devient terriblement malsaine. Et au-delà de l'Église, les vraies relations, que ce soit dans nos couples, dans nos amitiés, elles sont directement liées à la franchise dont on fera preuve. Pourquoi ? Parce que des conflits qui arrivent à être réglés vont permettre de nous rapprocher les uns les autres. Mais attention, bien évidemment, la franchise ne doit pas être un prétexte pour dire n'importe quoi, n'importe quand, au risque de blesser les autres inutilement. Apprenons à connaître les personnes, savoir un peu leur histoire, nous permet d'être souvent plus compréhensifs. Au lieu de penser à tout ce qu'ils doivent encore faire, regardons le chemin qu'ils ont déjà parcouru malgré tout. C'est comme pour nous, hein. On n'a jamais l'impression d'avancer assez avec Dieu parce qu'on désire au fond, Seigneur, je veux plus de toi. Et puis, qu'est-ce qui nous permet de quand même regarder à Dieu et de regarder en arrière et dire, ouais, Seigneur, finalement, je ne suis pas encore arrivé au bout, mais j'ai quand même fait des progrès, merci. Et si on regarde à ce qu'on a fait, ce qu'on doit encore faire, ben, on ne regarderait plus grand-chose, hein, mis à part ça. Mais tout cela peut se faire effectivement dans la confidentialité. Proverbe 16, 28 nous dit « L'homme pervers excite des querelles, c'est-à-dire l'être humain, et le rapporteur divise les amis. » Une autre réalité que la Bible nous enseigne ici, dire des choses confidentielles sont un frein à la transformation. Cela crée un obstacle à l'évangile de la grâce manifestée en Jésus-Christ. Ce qui se dit entre vous, du moins ce qui est important bien évidemment, ce que l'autre exprime d'important, ce qui se fait dans le petit groupe reste dans le groupe. La Bible condamne très clairement ceux et celles qui créent des divisions parmi les chrétiens, notamment par leur manque de confidentialité. Et même, j'ai envie de creuser plus loin, si nous le faisons habilement passer pour un sujet de prière, dans le but d'aider l'autre bien sûr, Dieu n'a pas besoin que tous les autres le sachent pour savoir. Il sait déjà, il est Dieu. Paul écrira justement à Tite, dans le chapitre 3, verset 10, « Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. » Même s'ils se mettent en colère, même s'ils quittent le groupe ou l'église parce que vous avez osé reprendre quelqu'un sur ses paroles mauvaises, médisantes, la communion fraternelle pour Dieu est plus importante que n'importe quel individu. Pourquoi ? Parce que Jésus est au cœur de nos églises. C'est son plan même, ce n'est pas le nôtre. C'est lui qui nous conduit. L'église est ce qui a le plus de valeur aux yeux de Dieu et forcément ceux qui la composent, bien évidemment, puisque nous sommes aussi l'église de manière individuelle. Ses enfants bien-aimés. Vous avez aux yeux de Dieu plus de valeur que quiconque. C'est pour nous, pour l'église, que Christ a payé le prix fort. 2 Corinthiens 5, 18 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Notre capacité à nous entendre avec les autres est un signe de maturité spirituelle. Paul regrettait que dans l'église de Corinthe, il y avait des clans allant parfois, pour leur contexte, dans leur contexte, se traîner jusqu'en justice. Il dit en 1 Corinthiens 6, 5, « Je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul sage qui puisse prononcer entre ses frères. » C'est une question. Il s'étonne, Paul s'étonne de ce que personne ne soit assez mûr pour résoudre un conflit à l'amiable. Si vous voulez que Dieu bénisse votre vie et si vous voulez être reconnu en tant qu'enfant de Dieu, vous devez apprendre à être ouvrier de paix. Matthieu 6, 5, on l'a encore lu la semaine dernière, Jésus dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Jésus ne dit pas ici « Bénis soient ceux qui aiment la paix. » Parce qu'on aime tous la paix. Vous pouvez aller dehors, vous demander à des gens « Qu'est-ce que vous voulez dans le monde ?» Ils vont vous dire la paix. Jésus n'a pas dit non plus « Bénis soient les pacifiques, ceux qui ne se laissent jamais troubler. » Mais il déclare « Bienheureux ceux qui procurent la paix, ceux qui cherchent activement à régler les conflits. Pourquoi ? Parce que les ouvriers de paix se font rares, car leur tâche, bien évidemment, est difficile et elle nous coûte. Nous sommes tous formés pour faire partie de l'Église, la famille de Dieu, nous laisser transformer par le Saint-Esprit et apprendre à aimer les autres. C'est un apprentissage. Donc si vous avez l'impression que tout ça, ça vous plombe, eh ben, rassurez-vous, moi aussi, mais on est en apprentissage, justement. Et nous devons nous accrocher à ce que dit la parole pour nous aider à regarder plus clair avec les yeux de Dieu. Et le meilleur don que vous puissiez développer est celui d'être un ouvrier de paix. J'ai trouvé un texte assez magnifique qui est écrit dans ce qu'on appelle les règles de Reuilly. Ce sont des sœurs, des diaconesses à Reuilly. Et elles ont écrit plusieurs règles. Et voilà ce qu'elles disent, notamment à propos du corps du Christ. Elles appellent ça les jointures. Si nous devions choisir notre place dans le corps du Christ, ne désirons nullement être l'œil ou la main, ni même l'oreille. Le Christ ordonne admirablement son ouvrage et nul ne peut lui dire « je veux être ceci ou cela ». Mais il permet que l'on désire. Si donc nous pouvons désirer, désirons d'être les jointures, les lieux cachés où s'articulent toutes les autres parties, afin que nous prenions part à sa paix, aux profondeurs de cette Église qui est son corps. Ah. Amen, hein ? Là, j'ai plus envie d'être pasteur et j'ai envie d'être dans les souterrains, là, et de servir le Dieu, de servir autrement. Parce que je sais aussi que je serai jugé d'une autre manière, parce que je suis de nouveau à enseigner sa parole. Les jointures, les petits, ceux qui sont là, qui essayent justement de faire en sorte que les uns et les autres puissent être en relation profonde et authentique. Ceux qui sont là aussi, alors qu'on n'a pas l'impression qu'ils sont là, mais qui sont essentiels. Et là, je me tourne aussi, bien évidemment, envers beaucoup d'entre vous, parce que vous êtes de ceux-là. Pour terminer, j'aimerais juste, en conclusion, regarder à cette histoire, vous la connaissez, sans la relire, l'histoire de cet homme paralytique qui est amené par 4 personnes par le toit de la maison. C'est un peu ça, finalement, l'image de ce qu'on pourrait être dans l'église ou autre. ou dans un paquebot, ou dans une vie communautaire quelconque. Il y a une foule qui est là. Une foule qui est là pour observer, pour apprendre, pour regarder, peut-être juste par curiosité, peu importe, il y a une foule. Et puis il y a des scribes, ceux qui sont toujours en train à tatillon de chercher à droite ou à gauche s'il y a quelque chose qui ne va pas, à relever le problème, à aller remettre finalement à coup de bâton la morale de la parole de Dieu. Ce sont les scribes dans ce texte-là en tout cas. Et puis il y a d'un coup ces quatre hommes. J'ai oublié Jésus au centre, mais ça vous l'imaginez bien que Jésus est au centre de ce récit-là. Imaginons franchement la scène. Nous sommes... Soit vous êtes les quatre hommes, ou soit vous êtes dans la foule, peu importe qui vous êtes. Mais imaginez ça, la maison est bondée au point où les gens ne peuvent pas rentrer dans cette pièce. Et puis, ils décident déjà de passer des obstacles devant eux. Est-ce qu'on va pouvoir passer? Est-ce que la porte n'est pas fermée à clé? Est-ce qu'on va nous dire, oh, c'est bon, nous aussi on veut voir Si vous avez déjà fait des concerts dans des fosses, je vais vous dire, c'est presque la fosse au lion. Hein, parce que les jeunes, ça y va des coups de... En plus, si vous allez voir du hard rock, alors là, c'est encore mieux. Ils vont passer ces obstacles-là, extérieurs, et ils vont décider d'aller dénuder un toit. Qui oserait dénuder le toit d'une maison qui n'est pas la sienne? Franchement, je me suis posé la question aussi. Qui oserait bouleverser quelque chose dans l'église qui n'est pas, entre guillemets, exclusivement la vôtre? Pareil. Et dans ce cas-là, au-delà de nos pensées bien conventionnelles, ils ont osé démonter la maison pour aider leur ami paralytique. Et lorsqu'ils descendent, cet homme, qu'est-ce que Jésus dit? Il ne parle même pas du paralytique, il dit « voyant leur foi ». Il parlait de ces quatre hommes. « Voyant leur foi ». Et puis j'imagine qu'il y a leurs obstacles intérieurs avec tout ça, leurs peurs, leurs doutes. Il leur dit, punaise, si ça ne marche pas, ils sont lassés, ils l'ont quand même porté depuis un bon moment, j'imagine. Ils ont fait ce qu'il fallait, en tout cas de leur mieux. La question finalement, c'est est-ce que nous avons suffisamment reçu d'amour de Dieu pour pouvoir en avoir assez ou suffisamment, ne serait-ce qu'un peu, pour le donner aux autres? Et donc pour passer au-dessus de mes peurs personnelles et de mes insécurités? Est-ce que avons-nous assez de compassion pour oser faire ce qui semble plus facile à ne pas faire? On aurait pu se dire, ouais, la maison est pleine, écoute, on revient demain, on espère que Jésus sera là demain. Ça ne dérange pas. De toute façon, le paralytique, si ça se trouve, il n'a même rien demandé. Oser démonter, est-ce que j'oserais démonter le bout d'un toit d'une maison? Est-ce que j'oserais démonter une rumeur qui dure peut-être depuis bien trop longtemps, ou un comportement négatif que nous-mêmes puissions aller les rencontrer? Bien sûr, on aimerait tous que la vie soit belle, et encore plus dans l'Église, quand je dis qu'on a envie de en sécurité, on aimerait qu'elle soit belle et simple. Mais ce n'est pas ça la vraie vie. Il y aura toujours des obstacles, toujours des difficultés, des situations complexes. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être entouré, d'avoir des amis qui nous entourent, à l'image de ces quatre hommes qui prennent le paralytique. Ils sont prêts à l'aider quand cela est nécessaire. Imaginez, franchement, imaginons ce qui serait arrivé à cet homme. Si les quatre amis ne l'avaient pas ramené là, qu'est-ce qui se serait passé pour lui? Rien. Il se serait passé rien, absolument rien. Il y a déjà quelque chose, parce que le paralytique, finalement, il était soumis à l'action de ses amis. Il a aussi dit, bon, il ne s'est pas débattu pour dire de ses bras, écoute, je ne veux pas y aller, non, surtout pas, etc. Il leur a fait confiance aussi. Hein, il y a cette communion mutuelle. La première chose, c'est parce que les gens ne croient pas que des choses peuvent changer, alors les choses ne changeront pas. C'est la première chose. Parce qu'on est persuadé que le comportement d'une personne est une fatalité due à son caractère ou sa culture, alors on ne fait rien. Bien plus, nous-mêmes, parce que nous croyons que telle situation ne peut plus changer, parce que ça fait tellement longtemps qu'elle est comme ça, etc., alors nous ne faisons rien. Et du coup, si on fait rien, il se passe rien. Et nous devons penser de manière différente. Nous sommes encouragés à vivre cette relation mutuelle et à nous laisser transformer en profondeur. Comme le paralytique, en pleine confiance à ses quatre amis, il se laisse porter. Et il a accepté que quelque chose pouvait changer. En tout cas, c'était son espoir. Si nous commençons à croire que les choses les plus folles à nos yeux peuvent changer, alors déjà, c'est déjà un bon début pour qu'elles puissent changer. L'Église est un corps de croyants attaché à la tête, qui est Jésus-Christ. La présence de Dieu est là, elle restera là. Donc si nous désirons que Jésus soit au cœur de nos relations, de nos transformations, alors je crois que beaucoup de choses vont encore changer. Et je me réjouis de toutes celles qui ont déjà changé. Dans nos cœurs d'abord. Ne regardez pas autour de nous, mais dans nos cœurs. Ce n'est pas tant dans quelle direction on va aller avec l'Église qui est le plus important, mais plutôt dans quel état nous voulons être intérieurement. Et c'est ce que nous sommes, que nous pourrons alors être au bénéfice de grandes bénédictions de Dieu et ainsi justement déborder d'amour et de bénédiction pour ceux qui nous entourent.